Actu SF, les podcasts.
Bonjour, je m'appelle Thierry Bosque, je suis chercheur au LAS CNRS, un laboratoire toulousain. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'une anthologie qui a été éditée à l'occasion du cinquantenaire du laboratoire. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir parmi nous Sylvie Denis, Raphaël Granier-Cassagnac et Jean-Claude Dugnac qui vont se présenter chacun à leur tour avant que nous attaquions le vif du sujet. Sylvie, tu commences par Thierry, s'il te plaît.
Bonjour. Sylvie Denis, je suis auteur. J'ai publié des romans chez La Talente, un recueil Jardin virtuel chez Folio, des nouvelles ici et là, et je suis par ailleurs traductrice.
Et tu as parlé de quoi dans la nouvelle de l'anthologie ?
Pardon ?
Dans la nouvelle de l'anthologie, tu as parlé de quoi, tant qu'à faire ?
Ah, déjà ?
Oui, déjà. Les gens sont là pour ça. Ah, ils t'attendent. Leurs yeux sont braqués.
C'est une nouvelle sur le changement climatique et sur l'avenir des cultivateurs et des paysans d'ici à 50 ans. Et c'est la vie d'une femme aussi. J'en dis pas plus pour le moment.
Okay, moi, je suis Raphaël Granier-Cassagnac. Je suis chercheur en physique des particules pour gagner ma vie. Et auteur pour le plaisir, même si on y viendra peut-être, on était plutôt bien payé. Et donc j'ai commis deux romans d'anticipation qui s'appellent Thinking Eternity, Eternity Incorporated, qui parlent de pas mal de sujets technologiques, intelligence artificielle, transhumanisme, et un plan cybernétique. Et donc pour l'anthologie Technosciences à venir, j'ai parlé d'implantation de dieux cybernétiques sur un patient qui est le personnage. C'est une espèce de spin-off de mes romans, c'est mon personnage principal. Donc je suis revenu sur le docteur qui lui a implanté ses yeux cybernétiques.
Moi, je suis Jean-Claude Dugnac, j'ai été l'anthologiste, ce qui fait que j'ai rien foutu et que j'ai fait travailler mes petits camarades.
Et en plus, il a son nom sur la couverture, lui, donc ça, c'est absolument abject.
Voilà.
Donc, pour vous expliquer un petit peu le projet, je me rapproche parce que vous êtes très très loin, je ne vous vois pas. On a juste les spots dans le visage, ce qui fait que j'ai l'impression de. Voilà, c'est quand même plus sympa de voir les gens. Là, vous êtes attaché par des fils, vous savez, ça va être plus compliqué. Donc, le projet pour cette anthologie était, dans le cadre du cinquantenaire, on voulait un objet qui s'identifiait au laboratoire. Donc, nous avons demandé à 9 auteurs professionnels d'écrire des nouvelles de science-fiction en s'inspirant des thématiques de recherche du labo. Alors, faut savoir que nous sommes 700 personnes, ce qui fait qu'en termes de thématiques, ça couvre quand même pas mal de choses. La moitié des gens travaillent du côté informatique et robotique, l'autre moitié côté électronique, nanotechnologie, microsystèmes. Et donc, on a demandé aux auteurs de bien vouloir s'inspirer de ce que nous faisions en recherche pour écrire des nouvelles de science-fiction. Alors, on ne voulait pas spécifiquement une anthologie de hard science, mais une anthologie qui parle un petit peu à tout le monde. Donc, on a demandé à des auteurs qui n'étaient pas forcément tous des scientifiques de bien vouloir écrire. Et puis, pour que l'objet, on se l'approprie vraiment et que ça corresponde à l'identité du laboratoire, on a demandé à ce que chaque nouvelle soit commentée du point de vue scientifique, de l'état de l'art, par un collègue du laboratoire. Ce qui fait que les auteurs stressés en se disant qu'ils vont être lus par des scientifiques, que les scientifiques stressés parce qu'ils allaient devoir faire un exercice dont ils n'ont pas l'habitude, commenter un texte de science-fiction, ce qui m'a permis de me faire détester par à peu près tout le monde. Mais bon, ça, à la limite, j'y ai pris plutôt du plaisir. Et puis, in fine, on s'est dit il faudrait quand même remettre à la fin de l'anthologie aussi un chapeau pour reparler du lien qui est parfois un petit peu... on va dire soit distendu, amical, ça dépend des moments, entre science et science-fiction. Et donc là aussi, on a voulu la dualité en faisant écrire un fan de science-fiction, Francis Saint-Martin, qui a écrit sur sa vision de la relation entre science-fiction et science. Et puis, d'un autre côté, on a demandé à Roland Lehoucq de faire la postface, où lui, il a écrit donc la relation entre science et science-fiction, vue par un scientifique du CEA, fan de SF. Voilà, donc l'objet est cohérent. Je dirais que les thématiques qui sont abordées sont extrêmement variées sur les 9 nouvelles. On a parlé d'implants cybernétiques, on a parlé d'agriculture du futur. Il y a des cobots, donc des robots compagnons. On va parler, par exemple, aussi d'impression 3D de corps humain. Donc il y a vraiment toutes les thématiques du pas toutes, mais une bonne partie des thématiques du laboratoire qui sont représentées. Et ça donne, je dirais, des textes qui sont très diversifiés. Et pourtant, à titre personnel, j'y ai trouvé une certaine unité, à savoir qu'on parle beaucoup de robots et d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'humains améliorés, et finalement on se rend compte qu'il y a une partie de l'anthologie qui montre qu'on essaie de faire tendre les robots vers une certaine forme d'humanité, d'accession à l'humanité, mais surtout qu'on fait tendre les humains améliorés avec un modèle qui est celui de la machine. C'est-à-dire que la machine n'est plus, comme par exemple à l'époque de Jules Verne, quelque chose qui est là uniquement pour nous aider, c'est devenu un modèle vers lequel on va tendre en termes de performance et ainsi de suite. Et donc, moi, ça a été le message, je dirais, sous-jacent qui transparaît de l'anthologie. Après, je pense que mes petits camarades vont sûrement commenter cela en détail. Et puis, on ne voulait pas une anthologie de hard science, on ne voulait pas une anthologie scientiste, c'est-à-dire une anthologie où la science serait absolument la panacée, que ce serait le progrès par la science à tout craint, etc. On voulait aussi qu'il y ait un regard critique. Et en particulier, je suis très heureux que Sylvie participe à cette table ronde, puisque dans sa nouvelle en particulier, il y a une mise en abîme entre une utilisation de la science qu'on peut considérer comme ne relevant pas vraiment du progrès, et une autre qui relève pratiquement de la poésie, d'une forme de progrès. Et donc c'était intéressant de voir qu'une même technologie pouvait avoir une application au quotidien qui pouvait être jugée néfaste, et une autre qui au contraire serait extrêmement positive. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter globalement cette anthologie, qui est un objet un petit peu bizarre, puisque la moitié des textes c'est la science-fiction, et l'autre moitié ce sont des commentaires qui viennent enrichir le texte de fiction en disant voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on pourrait en être demain, et voilà ce qui, en l'état actuel de nos connaissances, semble impossible aujourd'hui, sauf à ce qu'une singularité apparaisse, c'est-à-dire un gap technologique tellement important qu'on en arrive effectivement à pouvoir briser certaines chaînes et arriver effectivement à certains progrès majeurs.
Et j'ajoute un point, c'est que ce texte, cette anthologie commence par la première nouvelle d'un philosophe, Xavier Mauméjean, pour ne pas le nommer, et finit par la nouvelle d'un humaniste, Pierre Bordage, pour ne pas le nommer, et que les deux font une espèce de trajectoire fascinante sur l'image que l'homme se fait de lui-même. Et ça, c'était aussi... C'est intéressant, ces objets qui ressemblent à rien, qu'on n'a jamais fait, qui sont hybrides, parce qu'ils nous obligent un petit peu à nous regarder, à la fois nous, écrivains de science-fiction, nous, scientifiques, avec les yeux de l'autre. Et là, on a eu ce renvoi, à la fois philosophique, humaniste, etc., qui a dit, c'est bien ce que vous faites, mais en avez-vous maîtrisé tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les connaissances, toutes les conséquences, et surtout, tous les changements de regard que ça va impliquer. Et il y a beaucoup de changements de regard dans ces textes, et c'est une chose extrêmement intéressante. Et Sylvie, en particulier, a des gens qui apprennent à lever les yeux. Et ça, c'est merveilleux.
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Non, j'ai que ça résonne et je ne t'entends pas bien. Oui, j'ai des agriculteurs dans le Gers, bien que le département ne soit pas nommé dans la nouvelle, mais je me suis basée sur plus ou moins une extrapolation de ce qui allait arriver avec le changement climatique, avec des gens qui ont de plus en plus de difficultés à faire le travail, tout simplement. Et qui doivent en plus essayer de faire avec les consortiums qui veulent leur vendre des choses ou qui veulent leur imposer des façons de travailler ou de vivre. Ma nouvelle se déroule sur 30 ans, donc le personnage principal est né en l'an 2000. Et je ne sais plus quel âge elle a au début, je crois qu'elle a vers 50 ans, et à la fin, c'est une vieille dame. Et j'avais envie de montrer une évolution où il y a eu un début de entre guillemets, de révolution verte, un début de prise de conscience et d'action politique qui fait que des choses se sont passées de ce point de vue-là. Il y a eu des gens qui étaient des activistes, etc. Et après, il y a un retour de bâton. Donc, pour moi, c'est ni optimiste ni pessimiste. J'ai essayé de garder les deux. Et je ne parlerai pas de la fin et de lever les yeux, parce que je ne veux pas dire la fin du texte.
Alors moi, si je peux dire une chose, c'est merci. Merci les gars. Pour moi, c'est une expérience absolument géniale. Donc moi, je suis chercheur, pas du tout dans le domaine de ce que j'écris. Et donc dans ce contexte-là, tu m'as contacté parce que j'étais auteur, donc je me considère pas du tout comme un auteur de hard science. J'ai plutôt commencé par faire de la fantasy, donc le plus loin possible de la science possible, et puis de fil en aiguille, je suis plutôt revenu sur des choses assez scientifiques. Donc j'ai écrit en tant qu'auteur sur une science, la cybernétique, que je connais pas. Bon, même si je crois que j'ai donné une masterclass ce matin sur le sujet, mais ne le répétez pas, en fait, j'y connais rien. Et donc j'écris, voilà, et je vous envoie le texte, et puis vous me renvoyez toute l'anthologie avec le texte du scientifique derrière, et c'est génial, c'est purement génial. C'est pour moi un dialogue qui devrait avoir lieu plus souvent, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres endroits où c'est fait, mais avoir comme ça, en tant qu'auteur, le retour sur... parce qu'on invente, en fait, on invente sans trop savoir vraiment les fondements scientifiques de ce qu'on utilise dans science-fiction. Et c'est mieux quand on ne sait pas, en fait, parce que ça permet d'inventer des choses en rupture. Il faut quand même un peu savoir un petit peu, mais il vaut mieux s'évader, quoi. Et là, voilà, recevoir un texte sur un truc que je considère avoir inventé dans mon texte, qui me dit, voilà, non, attends, l'état de l'art, c'est là t'as raison, là t'as tort, là il faut, comme tu disais, une rupture technologique qui n'a pas encore eu lieu, un changement de paradigme, etc. Et ça, c'est vraiment, je vous conseille de le lire, c'est absolument fantastique. Et je pense qu'on devrait le faire beaucoup plus souvent. C'est quand le prochain?
On y pense, justement, parce que le CNRS fête ses 80 ans l'année prochaine, donc ça fait aussi partie des choses qu'on regarde. Par contre, il y a effectivement un aspect qui est intéressant, c'est que ce continuum, c'est-à-dire cette continuité entre la question science-fictive posée par un auteur de science-fiction qui met une certaine forme de technologie en perspective sociétale, et le chercheur qui, lui, est en train de développer la technologie en question, c'est un dialogue qui était totalement impossible il y a 20 ans, ou vraiment dans de très rares cas, parce que, je dirais, le monde ne s'y prêtait pas, ou tout au moins le système de pensée des gens, aussi bien des auteurs que des chercheurs d'ailleurs, n'était pas orienté vers ça. Or, nous vivons dans un monde de science-fiction. On l'a encore rappelé ce matin, là, il y a eu une table ronde sur la médecine, sur l'exploration du corps. Nous avons atteint un certain nombre des choses qui relevaient de la science-fiction il y a même 30 ans. Et ça s'accélère, le mouvement s'accélère. Donc, on a des chercheurs qui se tournent vers nous en disant « Cette démarche est indispensable parce que nous sommes incapables de la faire, ou nous avons du mal à la faire, et c'est votre métier. » Et nous nous tournons vers des chercheurs en disant « On ne peut plus raconter n'importe quoi, c'est plus possible, on ne peut pas s'amuser à extrapoler parce qu'on en a besoin, on a réellement envie de parler du monde tel qu'il peut être. » Et ce dialogue-là est devenu extrêmement riche.
Alors c'est vrai que la mise en abîme ou la correspondance entre textes de fiction et les commentaires des chercheurs, on a des retours des auteurs qui... On avait notamment Pierre Bordage la semaine dernière sur une table ronde qui disait que le retour du chercheur l'a amené à vraiment réfléchir sur son texte et à y trouver une profondeur que lui-même n'avait pas forcément complètement finalisée. Enfin, c'était plus intuitif de sa part. Mais on a aussi un retour de la part des chercheurs qui se sont remis en question par rapport à leur propre recherche, à leur éthique. Pourquoi est-ce qu'ils font ce type de recherche? Quel est l'impact sur la société, etc. On n'avait pas mis, par exemple, dans le cahier des charges, la nécessité de parler d'éthique au niveau des commentaires des chercheurs. Et beaucoup d'entre eux ont parlé d'éthique, ont parlé d'impact sociétaux, parce qu'en lisant les textes de science-fiction, qui sont essentiellement... La science-fiction, c'est une littérature d'alerte, mais si c'est une science-fiction purement technologique, ça devient désuet de manière très rapide. Si c'est une science-fiction qui parle de l'impact de la technologie sur les humains, c'est quand même beaucoup plus riche et ça va passer le temps de manière beaucoup plus importante. Donc là, vraiment, ce qui a interpellé les scientifiques, c'est le fait qu'on parlait d'impact sur la société, de leur propre recherche. Ça les a amenés à réfléchir, à parler de questions d'éthique qui n'étaient pas naturellement abordées et qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 10 ans. Si, il y a 10 ans, pour les 40 ans du LAS, j'avais proposé de faire cette anthologie, je pense que, on m'aurait dit, Thierry, retourne jouer dans ton bac à sable, on gagnera du temps. Aujourd'hui, la science-fiction est devenue un vecteur tout à fait crédible pour transmettre des informations vers le grand public. Il y a cette nécessité qui est ressentie par le CNRS de se rapprocher aussi des artistes pour communiquer vers le public. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, il y a une cassure entre ce qu'on appelait le progrès technologique et tel qu'il est ressenti réellement par le public, et le fait de communiquer, d'aller discuter avec les gens, de répondre à des questions. Ça démythifie un certain nombre de choses aussi. Ça permet d'abord de se rendre compte qu'a priori, le chercheur a 2 bras, 2 jambes, à peu près comme vous, quoi. Et, voilà. Et ça permet de discuter avec les gens et de se rendre compte qu'il y a parfois des mythes urbains dont on peut tordre le cou très rapidement. Si je prends l'exemple de la nouvelle de Xavier Monméjean, qui parle donc d'un robot qui veut accéder à l'humanité, moi, souvent, une question qu'on me pose, c'est est-ce que les robots vont remplacer les humains et vont tous les tuer ? Ça peut paraître un petit peu aberrant, mais c'est une question quand... j'ai fait les journées portes ouvertes du laboratoire il y a 3 semaines, et il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Est-ce que vous pensez que les robots vont tuer les humains et prendre leur place ?» Ma réponse a été « Pas tout de suite. » Bon. Et après, j'ai un petit peu développé en expliquant qu'il y avait quand même très peu de chances que la chose arrive et que c'est littéralement
impossible. Il y a une seule réponse à ces cas-là, c'est tu le regardes sérieusement, tu dis « Vous connaissez notre plan, nous devons vous éliminer. » Et tu dis « Vous connaissez notre plan, nous devons vous éliminer. »
Oui, alors Jean-Claude, effectivement, tu connais mon sens de l'humour naturel. J'y ai pensé, mais j'étais un peu dans le cadre du boulot, je ne pouvais pas me le permettre. Non, il paraît qu'on n'a pas le droit de faire fuir les visiteurs en courant, donc bon, c'était comme ça. Mais c'est vrai que cet aller-retour entre texte de fiction complètement imaginé et quelque part le retour à la réalité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait en être demain? Il y avait des craintes de la part de certains auteurs, se disant « mais si je suis passé à côté de la plaque, si je me suis complètement trompé, etc. » Alors, ce n'est pas arrivé. Il y a eu des moments où, effectivement, il y a eu un aller-retour entre l'auteur et le scientifique en disant « attention, ça, cette hypothèse-là, elle est quand même très limite, vaudrait mieux essayer de travailler différemment. » Ok. Mais la plupart du temps, ça a plutôt été un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que le chercheur a réfléchi sur son travail. Et l'auteur a été amené aussi à avoir un échange avec le scientifique. Ça dépendait des binômes. Certains étaient plus actifs que d'autres. Mais il y a eu un véritable échange, il y a eu un véritable enrichissement mutuel. Et c'est vrai que quand on lit le texte des chercheurs après la nouvelle, je trouve que ça embellit encore la nouvelle. Et sinon, vous l'avez vécu comment ?
La torture. Comme mon voisin, c'est très, 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 très étonnant parce que ça m'était jamais arrivé d'avoir une réaction pratiquement immédiate. Et du point de vue scientifique, dans mes textes, parce que je n'ai aucune formation scientifique, je suis une littéraire et une linguiste, et je travaille sur la langue la plupart du temps. Donc mon approche, ma culture scientifique, elle vient de la lecture de magazines et de livres, etc. Plus Internet, depuis que Internet existe, ce qui rend les choses quand même beaucoup plus facile. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'empiler des bibliographies quand j'écris des textes et dire des choses, pour ensuite les oublier plus ou moins, écrire les textes. Alors, pour celui-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était un texte que j'avais commencé, qui était plus ou moins pas en panne, mais bon, ça avançait pas trop, parce qu'en fait, il me manquait quelque chose. Et à partir du moment où j'ai eu le projet et les intitulés des thèmes possibles, je ne me rappelle plus exactement, mais ça m'a donné certaines idées sur le fait que ça devait se passer sur 30 ans avec un long laps de temps où on voyait l'évolution des choses. Donc pour ce qui est de la totalité de l'expérience, oui, je veux bien recommencer, il n'y a pas de problème.
Pour vous dire à quel point cette anthologie était de la science-fiction, nous avons payé les auteurs en avance. Je veux dire, on a perdu d'ailleurs absolument toute crédibilité d'un truc comme ça, et on ne pourra malheureusement plus jamais le refaire. Mais j'ai été obligé d'envoyer un mot d'excuse aux auteurs pour leur expliquer qu'on allait les payer plus. Et c'est vrai, on les a payés plus que ce qui était prévu. Donc on aurait dû changer le contrat, parce qu'en fait, on leur donnait pas la somme qui était dans le contrat, mais on leur en donnait plus, et plus tôt. Et j'ai été obligé vraiment de présenter mes excuses du fond du cœur en disant « je vous promets que ça se reproduira pas ». Mais on était véritablement dans la science-fiction, là, littéralement. Après, mais personne ne m'en a voulu, je reconnais que ce sont des vrais professionnels et personne ne m'a dit quoi que ce soit, à part en privé bien entendu.
Non mais c'est une anthologie sponsorisée et c'est intéressant ça comme concept quoi. C'est le CNRS qui quelque part commande, enfin par ton intermédiaire, mais qui quelque part commande à des auteurs des textes, et ça, c'est ça, je trouve c'est extrêmement intéressant ça. Ça se fait de temps en temps ici ou là, mais il y a des entreprises plus ou moins réussies là-dessus, celle-là je la trouve très réussie. Et moi, à la lumière de ce qu'on disait, je me dis, ce serait bien que si les politiques faisaient ça aussi. C'est-à-dire, si les politiques faisaient appel à nous pour réfléchir à l'avenir, à nous scientifiques et à nous.
Il y a une nouvelle d'Olivier Paquet dans le rapport Villani que je vous recommande, le rapport sur l'intelligence artificielle. Si le sujet vous intéresse, il est très intéressant et il est parfaitement lisible. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du domaine.
Mais c'est complètement balbutiant ça en France, je pense que c'est tout nouveau quoi. Et puis c'est Villani quoi. c'est ce que je trouve super fascinant là-dedans, c'est vraiment la rencontre de deux mondes qui réfléchissent tous les deux à l'avenir en fait. Hein, les auteurs de science-fiction réfléchissent à l'avenir, les scientifiques font l'avenir dans une certaine limite. Tu peux pas essayer de faire la même avec des politiques là. T'as pas l'Assemblée nationale présente ou
Oui, non, moi je non. Non, pas, tu veux pas, toi. Pas avec des politiques, non.
Après, ce qui est important, c'est qu'il y a pas de contraintes. C'est-à-dire que c'est une anthologie commandée, donc le scénariste nous a commandé quelque chose, si je puis dire. Mais on n'avait pas de contraintes d'écriture.
C'était justement l'idée. Il ne fallait pas.
Non, on avait des suggestions de thématiques, on avait des explications sur ce que faisait le laboratoire. Ouais. Éventuellement, on avait des noms de certaines personnes avec qui on pouvait discuter, mais il n'y avait pas de contraintes de réelles thématiques sur les textes. La preuve, moi, c'était un texte déjà commencé, je l'ai tout simplement continué en changeant quelques angles et quelques bricoles.
C'est clair qu'on ne voulait surtout pas mettre de contraintes. On voulait des auteurs qui soient d'horizons différents, on voulait des auteurs scientifiques, des auteurs non scientifiques. L'idée, c'était précisément que les gens se sentent libres d'écrire comme ils le souhaitaient. Bon, alors évidemment, on avait demandé à ce qu'on évite la pornographie hard, des choses comme ça. Ça, c'était la moindre des choses.
Il y avait une footnote
c'est pour ça que j'ai pas de texte dans l'anthologie, personnellement. Mais...
Voilà, c'est pour ça que Jean-Claude, je l'ai censuré immédiatement. J'ai vu son texte, non, ça, c'est pas possible. Plaisanterie mise à part. Le but, c'est que les auteurs se sentent libres d'écrire sur l'impact d'une technologie sur la société et sur l'homme. Voilà. Ça nous paraissait important. Parce que la technologie, les technosciences, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait. À partir de là, on pouvait, nous, tout à fait accepter qu'une technologie soit utilisée de manière négative par rapport à l'être humain, et dire voilà aujourd'hui où on en est, et puis voilà typiquement ce qui nous paraît probable ou totalement improbable, et ainsi de suite. C'est demain je vais faire une conférence sur le laser. Je vais quand même expliquer que le rayon de la mort tel qu'on le connaît, ça représente 3% des applications du laser en réalité, et que les applications du laser n'ont rien à voir avec ce que la littérature de science-fiction des années 40-50 a pu donner comme idée générale et qui est bien ancrée dans l'esprit du public. Ben là c'était pareil. C'était vraiment l'idée de se dire la techno, son impact. Oui, j'ai fait la pub en même temps. Comme ça,
non, mais tu viens de nous dire que le rayon de la mort existe, c'est ça? Discrètement, tu viens de nous dire que le rayon de la mort existe, en fait.
Oui, oui, oui. Il y a très exactement une application réelle et concrète du laser en tant que rayon de la mort, qui est sur un bateau américain depuis août 2014, si je me souviens bien. Et qui marche, et qui fonctionne, oui, malheureusement. Mais ça correspond à...
Mais c'est pas grave, hein, c'est que 3% de ce qu'il fait.
Ah non, non, moi, je n'ai aucune activité dans ce domaine-là, clairement.
Je te taquine.
Non, mais je t'en prie. Mais c'est vrai que ça existe. C'est vrai que par rapport à l'imaginaire dans le grand public, ça ne correspond absolument pas à l'immense majorité des applications.
Et il y a une chose que je constate et qui, moi, m'a interpellé un petit peu aussi, c'est que cette anthologie s'inscrit dans une démarche de pensée qu'on voit apparaître dans notre vie quotidienne. Je peux vous dire que moi, dans l'industrie, je la vis depuis 4 à 5 ans de manière intense. C'est que maintenant, tout doit être raconté sous la forme d'une histoire, d'une story. On ne vous dit pas « fais une présentation au chef de tes résultats », on dit « fais la user story », l'histoire de vue côté utilisateur de ce que tu viens de créer. C'est-à-dire que personne ne veut savoir ce qu'il y a sous le capot, personne ne veut savoir comment ça fonctionne techniquement, il veut qu'on leur raconte une belle histoire. Regardez les émissions d'actualité de TF1 et autres, et vous allez vous apercevoir que c'est réellement ça. On ne vous dit pas le réchauffement climatique, c'est ça, avec les chiffres, les éléments, les trucs qui vont bien. On vous raconte l'histoire de ce petit village perdu ou de cette petite île qui va être submergée parce que la mer va monter 30 cm. Ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui vous fait battre le cœur, qui fait pleurer Margot, etc. Mais c'est une histoire. Et c'est bien d'avoir une anthologie qui dit, attendez, on vous raconte l'histoire, mais derrière, il y a quelqu'un qui consolide. Et amener un petit peu les gens à consolider derrière, à avoir le réflexe de dire, OK, sur quoi est-ce que je me base? Et quel est le squelette de vérité, le squelette factuel, le squelette réel de pratique de ce qui se passe? Ça, c'est une fonction qui est très importante pour nos histoires à nous. Alors nous, écrivains, on essaie de le faire, c'est notre métier. Mais quand vous voyez un présentateur télé qui essaie de le faire, c'est souvent pathétique. Et
toujours.
L'ontologie m'intéressait beaucoup de ce point de vue-là, parce que j'ai dit, voilà, on va mettre en place la manière dont ça devrait marcher. Et ton idée de faire un truc politique, peut-être pas politique, mais j'aimerais un truc côté télé, tu vois. J'aimerais que TF1 nous demande 12 histoires de faits divers, mais poursuivies par les gens qui techniquement savent de quoi ils parlent.
Alors, il commence à y avoir des démarches. Oui, donc si TF1 est là, d'ailleurs, on peut faire une interview après, mais TF1 n'est pas là. Bon, France 2, alors ? France 3 ? Bon, tant pis. Il y a une expérience qui a été réalisée l'an dernier à Lyon, que je trouvais très intéressante. Ils ont écrit un scénario de science-fiction qui se passe dans une trentaine d'années, où il y a un accident de voiture autonome dans Lyon, et pour aider les juristes à anticiper le droit de demain. Parce que compte tenu des avancées technologiques, le droit devient obsolète. Et donc, ils ont écrit des récits de science-fiction, et à partir de ces récits de science-fiction, les juristes, par groupe, travaillent pour essayer d'inventer le droit de demain et d'après-demain. Donc déjà, la science-fiction est en train de rentrer, non pas chez les politiques, même si ça a été commandité par la mairie, ça commence à diffuser. C'est vrai qu'une anthologie de science-fiction commentée par des chercheurs, je crois que bien que c'est la première fois que ça arrive, je n'ai pas d'exemple où chaque texte est commenté par un spécialiste différent dans l'histoire de la SF, donc ça, c'était vraiment intéressant. Le fait d'obtenir un budget, bon, c'est un petit miracle, hein, faut appeler un chat un chat, on a eu de la chance, bon, tant mieux. Surtout que le budget était en augmentation, alors je ne demandais rien, ça c'était encore plus miraculeux. Mais de plus en plus, des organismes s'emparent de la science-fiction pour imaginer le monde de demain et répondre à des questions parce qu'ils n'ont pas les outils pour y répondre dès aujourd'hui, en particulier les juristes.
Bah, les juristes, c'est une bonne idée, oui. C'est marrant parce que j'en ai parlé ce matin aussi du truc à Lyon, et ça a même été plus loin, ils ont fait un procès, enfin ils ont imaginé en live quoi, ils ont fait un faux procès sur une histoire fictive donc.
Oui, parce que c'était plusieurs équipes, il y avait ceux qui défendaient le pour, le contre, ouais. Les différentes, et chacun essayait d'inventer le droit de demain à partir de là, c'était super intéressant comme...
J'ai moi-même vécu à titre personnel une histoire de ce genre, hein, c'est vrai. Je fais aussi des textes de chansons, enfin, donc je travaille dans la musique, et à un moment donné j'ai eu à signer, il y a 2 ans de ça, un contrat avec Sony Music. Qui me montre un contrat normal, mais je découvre que je leur cède les droits pour la Terre et l'ensemble du système solaire. Alors, c'est écrit en toutes lettres dans le contrat.
Bon,
c'est
réducteur, je trouve.
Quoi, c'est un peu réducteur, mais enfin, réducteur. Bon, ils avaient quand même accepté de me céder tous les droits des autres galaxies, par exemple, et même, bon, mais donc la Terre et l'ensemble du système solaire. Alors, mort de rire, comme vous pouvez l'imaginer, je leur dis, attendez, je signe sans aucun problème, mais je dois vous avouer que sur Mars, je vends rien. Hein, c'est vraiment un truc... Et là, tout à fait sérieusement, le juriste qui était là m'a dit « Mais attends, c'est un problème énormément sérieux. » Parce que pour l'instant, le droit s'arrête à l'atmosphère terrestre. Ce qui est broadcasté depuis l'ISS, qui est en dehors de l'atmosphère terrestre, échappe au droit. Or, les Chinois veulent créer des bases lunaires ou des systèmes de satellites qui feraient de la diffusion de biens culturels hors de cette période, donc sans avoir à payer quoi que ce soit. Et donc, on est en train d'adapter le droit... À une condition de science-fiction, et on se dit, bon, on a été jusqu'à l'orbite de Pluton, donc on est tranquille quelque temps. Mais quand même, j'ai signé un truc pour l'ensemble du système solaire. Donc rappelez-vous que si un jour sur Vénus vous écoutez un de mes trucs, ben vous paierez quand même.
Sinon aussi, sur la tonalité des textes, parce que là, on a été très très sérieux, il y a quand même, dans cette anthologie, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des textes qui sont aussi pleins d'humour. Voilà. Il y a un texte qui me fait beaucoup rire, celui de Catherine Dufour, avec un robot qui va faire plein de bêtises et qui va aider la personne qui est complètement désocialisée à renouer le contact avec le monde. Elle fait tellement de bêtises que finalement, elle va se sentir obligée, l'héroïne, de renouer le contact avec le monde et tout, et c'est très très drôle. Donc ce n'est pas une anthologie barbante. Ça, faut être très clair. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire, hein, sans parti pris. Et il y a même des moments où on se marre franchement. Et c'est quand même aussi important de préciser que ce n'est pas quelque chose d'institutionnel. On n'a pas demandé aux auteurs, soyez tristes, soyez sérieux, soyez coincés. On leur a plutôt dit, lâchez-vous. Et en plus, ils nous ont écoutés.
Et ça a introduit, je vais vous laisser le truc, ça a introduit la dimension émotionnelle de la science, qui est un truc qu'on a tendance à oublier. On voit tout le temps la science ou le scientifique comme une espèce de monstre froid ou quelqu'un qui essaie de se débarrasser de l'affect, de l'émotivité, pour se concentrer sur ses résultats de travail et sur sa perspective, qui est une perspective factuelle. Mais la réponse, c'est pas du tout. Et cette dimension-là, on l'a abordée de front, et d'une certaine façon, c'est ça, autour de ça, que s'est construit l'articulation du discours entre certains scientifiques, certains écrivains. C'était passionnant. Ça a été le cas chez toi, d'ailleurs, en particulier, je pense.
Ah bon? Ouais, j'ai complètement oublié ce que j'ai écrit. Non, j'ai pas oublié, mais tu veux dire dans quel sens c'était la dimension émotionnelle?
La dimension émotionnelle.
Ouais, mais moi quand j'écris sur la science, je m'éloigne le plus possible de la science en fait, parce que c'est mon boulot de tous les jours, donc c'est voilà. Donc en général, quand j'écris, ouais, j'essaie de. Oui, pour moi, un scientifique. Ouais, ça m'intéresserait pas de raconter une histoire qui soit que scientifique, ça c'est clair. Il faut qu'il y ait de l'affect et de l'émotion. Et j'écris même d'ailleurs plus. On me demande souvent hein, dans mes textes, j'écris. Comme moi, je suis vraiment scientifique, un peu hardcore même. Et donc quand j'écris sur la science, j'écris pas sur la science, j'écris sur les scientifiques en fait. Ça m'intéresse beaucoup plus d'écrire sur la façon qu'on a de faire la science, la façon qu'on a de collaborer, la façon qu'on a d'inventer des idées, de les vérifier, etc., que sur la science elle-même. Donc c'est peut-être de là que ça vient le côté un peu émotionnel.
Alors, ça transparaît. Il y a aussi le texte de Lionel Davoust où là le côté émotionnel est apparu de manière complètement involontaire, puisque bon, ben, ça parle d'un enfant qui a une maladie rare, et on a demandé à un collègue, sans savoir que sa propre fille avait une maladie rare. Et donc là, sa réponse est complètement différente. On était presque gênés, mais il nous a dit non, j'ai envie d'en parler. Et il commence son texte par là, et ce n'est plus du tout seulement le scientifique qui répond, c'est aussi le père. Et ça donne un impact émotionnel à la nouvelle et à la réponse du chercheur, qui est quand même complètement différente de ce qu'on pourrait avoir de manière usuelle.
Je suis d'accord avec toi. J'ai pas lu toute l'anthologie, mais ça, je l'ai lu. Et effectivement, quand tu arrives au texte, à la réponse du scientifique qui te dit, ouais, bah, j'ai une fille qui a. Là, t'as un effet waouh qui est assez, assez prenant. Ouais.
Et là, nous, on ne savait pas du tout. Donc, bon, on lui a même dit, si tu veux pas l'écrire, c'est une. Au contraire, je veux en parler. Je veux pouvoir dire que ben, ce qui donne le sens de mon travail quotidien, c'est quelque part d'essayer de sauver ma fille. Ça donne quand même une sacrée dimension émotionnelle et ça prend un peu aux tripes. Même beaucoup. Sinon, nous, on parle beaucoup. Vous avez peut-être des questionnements, des choses sur lesquelles, des sujets que vous voudriez que l'on aborde, s'il y a des petites questions dans la salle. Ah, je vais donner le micro, je vais lâcher le micro. Non, d'accord, il y en a d'autres. Pitié, pas de questions sur ce que les robots vont tuer les hommes. Merci.
Les femmes
Si vous pouvez, mais vous ne sortirez pas vivant de cette salle.
Même pas, c'est plutôt une réaction, parce que moi, j'ai commencé à lire. J'ai lu dans le train, là, par Yannon, donc j'en ai lu que trois pour l'instant. Mais d'abord, j'aime énormément la démarche. Ça va vraiment être un truc qui me plaise vraiment beaucoup au début, quand j'ai vu la présentation d'anthologie. Puis dans un deuxième temps, j'ai eu une petite inquiétude. Je me suis dit, oh là là, ça risque d'être. Je prends la nouvelle de l'auteur et puis tel point, c'est faisable. Tel autre point, c'est pas faisable. Tel truc, c'est dans 10 ans. Tel autre, c'est dans 50 ans. Et c'est pas ça du tout. Moi, pour l'instant, des trois nouvelles que j'ai lues, les trois commentaires de scientifiques, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment très bien joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment au fond des choses, ils n'hésitent pas à sortir un petit peu, à relancer sur des idées en disant tiens, la nouvelle, ça me fait penser à telle chose. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très riche et par rapport à une inquiétude que j'ai eue à un moment, oui.
Alors, j'avais cette inquiétude-là, donc on les a beaucoup briefés. On a fait réécrire des textes. Parce que certains textes étaient trop scolaires de mon point de vue, c'était trop, voilà ce qu'on peut faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Ça n'a pas été la majorité. La plupart des textes des collègues ont été écrits, il y a eu quelques modifications très marginales, mais c'était vraiment des points de détail, ponctuation, des choses comme ça. Mais il y a eu un ou deux textes qu'on a fait réécrire parce que le début était trop scolaire, c'était vraiment trop laborieux, etc. Et d'ailleurs, l'un des collègues à qui j'ai dit ça s'est écrié « Ma femme et mon fils m'ont dit pareil, vous devez avoir raison ». Donc là, finalement, bah, il a cédé très facilement. Mais l'objectif, c'était de prendre du recul aussi sur son travail. Et puis, c'est vrai que les réponses sont assez variées des scientifiques. C'est pas monotone du tout. Et quand vous arriverez à la fin de l'anthologie, vous verrez qu'il y a des réponses qui vont encore plus loin, notamment sur le dernier texte, que ce que vous avez pu lire au début. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très riche. La plupart des collègues ont vraiment joué le jeu et ont beaucoup souffert. Ils ne me parlent plus.
Non, moi, j'ai trouvé qu'ils écrivaient bien, les scientifiques, là. Alors, je sais pas quel travail d'édition il y a derrière, mais c'est plutôt, je suis d'accord. Vous avez lu les trois premières ou vous avez picoré?
Il y avait une autre question après.
Oui, bonjour. Alors, j'ai peut-être un peu peur d'être hors sujet. Mais à un moment, je vous ai donc écouté et vous parliez notamment au rassemblement des écrivains et des scientifiques. L'intérêt de la science-fiction, c'est non pas le progrès de la technologie en lui-même, mais c'est surtout l'impact que ces progrès peuvent avoir sur la société. Et justement, vous parliez d'éthique. Et est-ce que l'éthique ne serait pas un frein au développement de la technologie ?
L'éthique nerveux ou... Pardon. J'ai essayé de la faire avant toi, Jean-Claude, t'allais pas la faire ? Non ?
C'est pas mignon de lui piquer ses vannes.
Non, il n'y a pas de science sans éthique et il n'y en a jamais eu depuis le début de l'humanité. Toute science est interrogée. C'est notre fonction de nous interroger. Donc l'éthique fait partie de la démarche scientifique. Elle ne peut pas en être extraite. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est la projection sociétale. Parce que ça, on n'a pas appris. Soyons clairs. Raconter une histoire, c'est quelque chose de difficile, qui a ses propres règles, qu'un scientifique ne sait pas nécessairement faire. Je travaille dans un univers de recherche où j'ai affaire à des chercheurs extrêmement intelligents qui savent énormément de choses, qui expérimentent énormément de choses et qui sont pour la plupart, et je regrette de le dire, infoutus de me faire deux pages sur ce qu'ils font. Quand je suis en train de leur dire « raconte-moi en deux pages ce que tu fais », pourquoi tu le fais, quelle est la problématique, quelle est la question. Et je ne te demande pas les réponses, je te demande des questions. Je ne les ai pas. Et j'ai énormément de mal. Et mon boulot à moi d'écrivain, c'est justement de faire l'inverse. Et quand on a la chance d'avoir des gens comme Raphaël, par exemple, qui est dans les deux, qui sait raconter ce genre de choses, je pense qu'une des raisons pour lesquelles tu arrives à trouver du fric, c'est que tu dois savoir écrire tes dossiers de demande de trucs, parce que c'est une histoire à raconter, c'est clair.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Non, mais c'est vrai, ça fait partie de ces choses-là. Donc cette dimension-là, elle manque. Et elle fait partie de l'éthique. Elle fait partie de la rhétorique de la science par rapport au monde. Parce que les scientifiques ont de plus en plus conscience qu'ils écrivent le monde. Ce que la science fait dessine le monde dans lequel nous vivons et nous allons vivre. Nous le savons. Et on voit les endroits où on s'est planté. On voit les endroits où on s'est planté parce qu'on a fait des erreurs. Où on s'est planté, ce qui est plus grave, parce qu'on n'a pas vu ce qui allait se produire. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment le cœur de notre préoccupation. Et ce livre, qui n'est pas une anthologie de SF, qui n'est pas une anthologie de textes scientifiques, qui n'est pas un texte de vulgarisation, je ne sais pas ce que c'est cette interrogation-là, ce dialogue-là, ce débat-là. Vraiment.
Après, peut-être pour compléter, l'éthique, je pense que c'est clair, c'est pas une affaire que de scientifiques. Hein. C'est-à-dire que les scientifiques doivent participer au comité d'éthique qu'on peut imaginer, mais ils ne doivent pas être seuls. Et l'éthique, c'est une affaire de société avant tout. C'est-à-dire qu'on est tous concernés par les questions d'éthique, en fait.
Dans cette anthologie, on a des philosophes, on a des gens qui sont qui ne sont pas des scientifiques. On a des gens, comme tu dis, qui sont des littéraires et qui ont par contre un travail sur la narration qui est très fort. On a aussi des scientifiques, mais dans des domaines. On a un scientifique qui est dans un domaine, lui, qui s'occupe d'halieutique, c'est-à-dire de poissons et en particulier de gros mammifères, type orques, dauphins et choses de ce genre. Bon. Il n'est pas spécialement dans les satellites et les nanotechnologies et le laser. Mais il a une réflexion. Et il a une réflexion. Le fait qu'il travaille sur le vivant l'entraîne à une réflexion. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une historienne, Catherine. Enfin, on a des gens qui ont justement ce travail qui n'est pas le travail scientifique, mais qui est une démarche qu'ils appliquent à l'intérieur du domaine dans lequel ils s'expriment.
Oui, parce que dans la science-fiction, on a beaucoup de sujets avec le savant fou qui n'a aucune limite. Et qui déborde justement pour arriver à ses fins et qui va aller au-delà justement de ce qui est humainement possible d'imaginer ou de faire. Et c'était un petit peu dans ce sens-là ma question, quoi. C'est-à-dire que justement avec l'éthique, le scientifique se donne une limite à laquelle il ne va pas dépasser et auquel ces recherches auront peut-être plus de temps à aboutir parce qu'il va se donner un frein.
On a une commission d'éthique au sein du laboratoire, donc on réfléchit à ce que l'on fait. C'est clair que souvent on fait des choses parce qu'on peut le faire, parce qu'on sait qu'on va pouvoir y arriver, et sans trop réfléchir forcément à certaines conséquences. Je ne pense pas que ça nuise à la créativité des chercheurs, que ce soit réellement un frein, que de se dire, attention, on peut chercher à appliquer ce que l'on fait plutôt dans tel domaine que dans tel autre, et ainsi de suite. Ne pas aller forcément plus loin, alors qu'on pourrait éventuellement le faire pour telle et telle raison. Le champ des possibles est tellement vaste qu'on peut se permettre aujourd'hui... On a l'impression qu'on a tout inventé, c'est totalement faux. on ne sait pas grand-chose en réalité. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne le sait pas. Et à partir de là, on peut prendre des directions, et on peut prendre des directions en se disant quand même, notre travail, c'est on est payé par l'argent de l'État, on est payé par la société, on va aussi se dire à quoi ce que nous faisons peut bien servir. C'est vrai, nous sommes dans un laboratoire aussi, qui n'est pas un laboratoire de recherche fondamentale, on est dans un laboratoire de recherche appliquée, très clairement, on fait des technosciences, c'est d'où le titre de l'anthologie, la science c'est le savoir, techno c'est le faire. Nous on fait vraiment des choses, on crée des objets. Et donc se poser la question de l'utilisation des objets, de par exemple l'invasion de nanosystèmes dans le corps humain, et ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut le gérer? Est-ce que ça apporte un vrai plus à l'humanité? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ce sont des questions que l'on se pose, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, ça veut dire qu'on le fera en connaissance de cause et en essayant de limiter les impacts négatifs.
Oui, mais là, Thierry, tu décris un univers qui est le nôtre, dans lequel les choses se passent bien. Malheureusement, j'ai un certain nombre d'amis qui sont climatologues et qui vivent aux États-Unis et qui me disent qu'en ce moment, les seules bourses de recherche qu'on leur propose, c'est pour montrer que le réchauffement climatique est un mensonge. Et qui vous le disent vraiment, qui vous disent je peux faire vivre mon laboratoire pendant 2 ans, il faut juste que je démontre que le réchauffement climatique est un truc inventé par les Chinois et que c'est faux. On me demande n'importe quel moyen, mais que je le fasse. Mais par contre, on me donnera tout le pognon qui me permettra de faire vivre mes chercheurs.
Ah, moi, ça, je l'ai vécu à titre personnel. Le premier contrat de recherche que j'ai eu, effectivement, le client n'était pas content de ma conclusion. Et il m'a demandé d'inverser ma conclusion. Je lui ai dit non, tout démontre que c'est ça, et c'est pas autre chose. Donc soit vous enterrez le rapport, soit vous gardez ma conclusion, mais je refuse de la modifier. Ben, ça veut dire que j'ai perdu le client. Ben, c'est pas grave. On peut vivre différemment, on peut avoir d'autres sources de financement et ne pas se laisser aller à des dévoiements qui malheureusement existent dans certains pays. Moi j'ai vu par exemple des chercheurs qui expliquaient que le saucisson et le pâté c'était extrêmement bon pour la santé parce qu'il y avait une campagne financée par les charcutiers. Bon, je ne suis pas certain que du point de vue strictement délétique, tout ait été parfaitement respecté tout le temps. Même si j'aime beaucoup le pâté et le saucisson. Mais j'assume que ça peut me rendre malade. D'autres questions?
Oui, non.
Ah, Sylvie, si tu veux intervenir, excuse-moi.
Excusez-moi, juste pour finir sur ce point, là, c'est une question de diète éthique.
Pardon?
Là, c'est une question de diète éthique.
Ah, ouais, c'est pas mal. Diète.
Non, mais je le connais, lui aussi. Non, mais bon, d'habitude, tu me fais la vanne que ça va être une invasion extraterrestre. Là, tu m'as pris par surprise. Y a-t-il une vraie question, pitié?
Je vais essayer.
Merci.
En fait, moi, c'est la question sur la créativité. C'est-à-dire le fait d'avoir des échanges entre des auteurs de science-fiction et des scientifiques, est-ce que ça permet d'ouvrir de nouvelles idées ou d'aller encore plus loin ou ailleurs? Parce que les scientifiques, j'imagine, sont issus d'un même moule. Les auteurs de SF, pas forcément. Et est-ce qu'il peut y avoir, à travers ces échanges, justement, des avancées?
Les deux, mon colonel. C'est-à-dire que... c'est ce que disait mon voisin tout à l'heure. On a tendance à, quand on ne sait pas, on est peut-être plus libre que quand on sait. C'est-à-dire que si on cède trop à l'envie de se documenter, ça peut bloquer parfois parce que on se rend compte, bon ben non, ça on sait pas faire, etc. Des clones humains, on n'en a pas encore. Des modifications génétiques avancées et pérennes, on n'a pas encore. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des potentialités. Donc il y a une espèce de jeu constant entre se renseigner, voir ce qui se passe dans le monde et voir que les gens comment la recherche avance, que font les scientifiques, et relier ça à la culture SF qu'on peut avoir, de manière à trouver des nouvelles idées. Parfois c'est génial, on le trouve tout de suite, et parfois on ne trouve pas. Mais bon, c'est le jeu. Moi, c'est ce que j'aime, c'est essayer d'avoir des contraintes et de jouer avec.
Alors pour répondre un petit peu plus précisément à la question, moi j'ai vu dans le commentaire de mon collègue Olivier Lopis des idées qui permettraient à des femtosatellites d'être propulsés par laser vers les étoiles dans une cinquantaine d'années. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment donner des idées de science-fiction tout à fait excellentes. Lui est allé assez loin dans ce qui pouvait éventuellement, enfin, ce qui paraissait possible, probable, et voilà, même s'il y a des difficultés technologiques assez fortes. Donc ça peut nourrir aussi l'imaginaire des auteurs. Faut quand même se rendre compte que la qualité première d'un chercheur, c'est la rigueur. Mais s'il n'a que la rigueur sans imagination, il ne va pas aller très loin. Et finalement, qu'est-ce qu'on demande à un auteur de science-fiction ? D'avoir de l'imagination. Mais s'il n'a pas de rigueur, si son monde n'est pas cohérent, il ne va pas aller très loin non plus, ça ne va pas être crédible. Et on se rend compte que finalement, on a besoin à peu près des mêmes qualités et qu'on arrive à dialoguer pas si difficilement que ça, au fond.
Il y a une espèce de philosophie qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle une zone de confort, une zone dans laquelle on maîtrise à peu près bien les effets, on sait quels seront les effets de nos causes. Et ça, quand on construit par exemple un avion, on aime bien rester dans cette zone-là pour des raisons de sécurité. On s'attend à ce que ça marche bien. Quand on est chercheur, la partie excitante, elle se passe en dehors de sa zone de confort. Elle se passe au-delà de la frontière qu'on a explorée. Elle se passe à l'endroit où, justement, on n'a pas jeté un coup d'œil. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui nous pousse à aller s'attendre à tout parce qu'on est sorti de l'endroit où on sait à quoi on peut s'attendre. Quand on est écrivain, c'est pareil. Je veux dire, on peut continuer à écrire 100 fois le même livre, il y a des gens qui le font, mais la plupart des écrivains, la grande majorité des écrivains ou des artistes, vous disent que ça commence, la chose intéressante, en dehors de l'endroit où on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas écrire mes prochains textes. J'ai parfaitement su écrire les précédents. Mais d'une certaine façon, ça ne me sert à rien pour le suivant parce que je me suis mis volontairement dans un endroit où je ne savais pas. Il va falloir que j'explore, que j'invente et que je trouve. C'est ça, ce métier-là. Et ce dialogue-là, on s'aperçoit effectivement qu'avec les chercheurs, beaucoup de chercheurs en ont le même. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne revient pas vers des fondamentaux en disant « il faut quand même que, quelque part, ça soit solide. Je veux bien m'avancer au-dessus du vide à partir de la falaise, mais il faut ancrer le pont un peu plus loin dans la falaise, de manière solide, et avant de monter sur le pont, je vérifierai le point d'ancrage. » Vous voyez ? Donc on a tout le temps ce dialogue-là.
Alors, moi, ce qui est amusant, c'est que, en tant que chercheur, j'ai inventé un certain nombre de choses avec une idée d'application en tête bien précise. Je me suis trompé dans 100% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert vraiment à autre chose. Juste un exemple, j'ai inventé un système pour la sécurité routière, a priori. Aujourd'hui, d'abord, on l'a décliné pour la détection de mélanome. On pourrait se demander le rapport entre la voiture et le cancer de la peau. Pourtant, il est... Et très honnêtement, quand le médecin qui avait entendu ma conférence, c'était en Australie, est descendu me voir en me disant « Votre système peut m'aider à diagnostiquer des cancers de la peau », ma première réaction, je vous jure que c'est vrai, ça a été de me dire « Thierry, je savais que tu étais nul en anglais, mais pas à ce point-là ». Sauf que le gars m'a vraiment expliqué ce qu'il avait compris. Je dis « Ah, non, en fait, il a parfaitement compris ce que j'ai raconté ». Ce qui fait que la deuxième fois, ça m'a fait au même mal quand un autre chercheur est venu me voir en me disant « Mais monsieur, vous venez de changer ma vie parce que vous allez pouvoir m'aider à communiquer avec des insectes ». Et là, je l'ai regardé sans sourire, en me disant « Je vais d'abord l'écouter, j'éclaterai de rire plus tard ». Il m'a expliqué vraiment ce qu'il voulait. C'est extrêmement difficile, mais oui, c'est possible. Oui, les insectes et les plantes ont des modes de communication acoustique qu'on est très loin d'avoir investigué. Et oui, ce que je fais peut les aider. Et donc, à partir de là, moi, j'avais fait un système, au départ, juste pour mesurer la vitesse des voitures. Ça m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Mais je ne suis pas un cas unique. La plupart des startups que je connais, leur marché principal, c'est un échec. C'est-à-dire qu'ils créent une innovation pour un marché et ils se rendent compte que c'est un marché à côté qui est celui qui va vraiment les aider à vivre parce que leur application principale, mais finalement, ce n'était pas le besoin. Et donc, cette mise en danger et ce fait que nous, on se projette... Bon, moi, j'ai exploré un phénomène physique. Je l'ai poussé à ses limites au maximum de mes capacités et je continue à le faire. Mais les applications, finalement, je n'imaginais pas le dixième de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'encore pendant 10 ans, j'ai du boulot. Bon, après, ça sera la retraite.
Et justement, c'est qu'en échangeant avec des auteurs de SF qui disent « Ah tiens, j'avais pas pensé effectivement à cette application-là, ou à aller aussi loin, ou à aller comme ça. »
Ouais, non, par rapport à votre question, comme vous l'avez super bien dit, dans les deux métiers, il y a des points communs clairs, rigueur et imagination, j'aime bien le... Moi, je les aurais dit dans l'autre sens que toi, mais peu importe, il y a les deux, dans les deux métiers, il y a les deux. Et après, pour répondre à votre question, et c'est ce que tu viens de dire, en fait... Il y a des idées qui se créent, mais pas forcément là où on les attend. Moi, j'ai amené 12 auteurs de science-fiction au CERN, à Genève, pour visiter. Et il y en avait un d'entre eux qui voulait absolument repartir du CERN avec le moyen, c'est Norbert Merjanian, avec le moyen de déplacer un système solaire entier. Voilà. Ben, il n'est pas reparti avec ça. Personne n'a pu l'aider à régler cette question-là. Mais par contre, j'ai vu des auteurs, donc Jean-Claude y était d'ailleurs, des auteurs et des scientifiques discuter de trucs, mais j'aurais jamais imaginé qu'ils allaient parler de ça, quoi. Un des pontes d'une des manips, d'une des expériences du LHC, le numéro 2 d'une des expériences, discutait avec Catherine Dufour d'immortalité. Il y en a un qui lui disait « moi je pense que c'est chiant », l'autre qui dit « non, moi je pense que c'est génial ». Et ça part comme ça. Et donc, pour moi, ce qui est important dans ce bouquin et dans tout ce genre d'initiative-là, c'est la rencontre entre des gens d'horizons différents qui ont des outils, des boîtes à outils un petit peu similaires ou des idées un peu similaires et qui discutent tous azimuts et ils se créent des choses, quoi. Ils se créent des idées et je pense qu'elles sont plutôt nouvelles c'est plutôt des idées qui émergent plutôt que des idées qui solutionnent des problèmes qu'on avait, en fait. J'ai plus foi en ça, moi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire sur sur tes recherches aussi.
Moi, j'ai un truc qui percole en ce moment, là, qui est quelque chose que j'aurais ramené de chez vous, où vous avez une approche et un type de solution dont je me dis ça peut nous servir à nous aussi. Et petit à petit, l'idée est en train de faire son nid, je vous en reparlerai assez vite. Non, il y a ce travail-là. Il y a des gens qui cartographient, qui vont explorer, qui vont jeter les cailloux pour voir le genre de truc que ça fait. C'est le genre de gamins qui prennent un tournevis et qui démontent leur réveil. Quand je discute avec mes camarades écrivains de science-fiction, je me rends compte que tous, à un moment donné, on a joué avec des mécanos, on a démonté nos poupées Barbie, on a démonté nos réveils. On n'a pas su les remonter, hein, mais on a eu un truc. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, garçons ou filles, c'est de leur filer un tournevis. Une boîte de trucs avec des machins, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être chers ou de trucs, qu'on peut démonter. Ça, croyez-moi, c'est génial. Un gamin qui démonte son jouet pour savoir comment le canard fait, ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, plus tard, fera quelque chose de sa vie. Donc, moi, j'encourage, mais vraiment, c'est vraiment ça. Hein.
Jean-Claude, j'ai une demande personnelle. Est-ce que tu peux me refaire ton imitation du canard, s'il te plaît?
S'il la refait, je demande à ce qu'on le démonte en public pour savoir comment ça marche.
Je peux même dire que j'ai offert à mon petit filleul, qui était tout petit à l'époque, une espèce de truc qui représentait une espèce de mini télé en plastique qu'on faisait avec des canards qui passaient et on avait la valse de Strauss qui faisait ta na 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 na, coin coin, coin coin, ta na na na. Et évidemment, on l'a surnommé Strauss-Kahn.
Pas de commentaire, merci. Y a-t-il d'autres, une dernière intervention dans la salle éventuellement, puisque l'heure tourne? Non? Ah, pardon.
Oui, en fait, vous nous avez montré que les frontières de l'éthique ne pèsent pas lourd, puisque vous ne maîtrisez pas du tout l'utilisation qui peut être faite en tant que scientifique, vous maîtrisez rarement l'utilisation qui peut être faite de vos découvertes, en fait.
Ça dépend des découvertes. Hein. C'est sûr que moi, qui fais de la physique très fondamentale, j'ai aucune idée de ce à quoi pourra servir mes recherches dans 50 ans, 100 ans. Est-ce que pour autant, il ne faut pas les faire ou pas? C'est un peu la réponse que tu donnais aussi. Moi, je pense qu'il faut les faire et il faut garder un œil. C'est-à-dire il faut qu'on reste tous alertes, mais c'est un peu la réponse que je vous ai faite tout à l'heure. L'éthique, ce n'est pas un problème de scientifiques, c'est pas un problème que de scientifiques, c'est un problème de société. On doit tous s'en emparer. Et ce qui se dit en ce moment autour du réchauffement climatique, c'est une bonne illustration de ça. On doit tous réfléchir ensemble aux conséquences de ce qu'on est en train de faire, que ce soit au niveau scientifique, au niveau technologique, à tous les niveaux. Et donc non, on le met pas à côté. Mais enfin, moi, l'éthique, je la mets pas à côté. Je sais, j'y réfléchis. Hein, par contre, j'ai réfléchi. Un jour, je me suis arrêté. Je me suis dit, bon, est-ce que ce que t'es en train de faire, est-ce que ça a des conséquences potentiellement graves sur l'humanité? Je dis, bon, ma réponse, c'est clair, personne ne sait aujourd'hui, à tel point que, je ne sais pas si tu te souviens, au CERN, il y a un physicien, c'était très émouvant d'ailleurs, un physicien qui a donné 30 ans de sa vie pour découvrir le boson de Higgs, et qui leur dit, à mes auteurs de science-fiction, qui leur dit, écoutez, moi, j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir le boson de Higgs, j'ai besoin que vous l'inventiez, que vous vous en empariez, que vous l'inventiez. Donc l'éthique, c'est ça, c'est tout le monde doit s'en emparer. C'est pas se dédouaner que de dire ça, au contraire, en fait.
Et, vraiment... et ça va plus loin que ça. Moi, je fais des avions, je te garantis qu'ils ne sont pas faits pour aller percuter des tours. Simplement, quelqu'un a décidé d'utiliser cette façon-là. Je peux offrir, un beau système de couteau en cadeau de mariage à des amis et s'apercevoir que dix ans plus tard, l'un des membres du couple va poignarder l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On est dans la démarche où les conséquences sont infinies et par conséquent non prévisibles, malheureusement.
Juste pour...
Oui, non, ce que je disais, c'était qu'on vit dans des sociétés extrêmement complexes, donc avec des interactions que personne ne peut ni prédire ni contrôler, et que on peut effectivement avoir une certaine conscience et avoir et penser qu'on peut avoir une action sur les choses sur desquelles on est relativement proche dans le système. C'est-à-dire que moi, dans le système, j'ai une action sur ce que je vais écrire dans l'anthologie. Par contre, les scientifiques, la plupart du temps, je n'aurai aucune interaction avec eux. Mais là, si. Et ça, c'est ce qui est intéressant, parce qu'autrement, dans la chaîne de production d'une invention ou d'une technique, on est dans des sociétés où les gens sont très éloignés les uns des autres et sont extrêmement spécialisés. Et c'est ce qui rend les choses difficiles, et c'est ce qui rend la vision globale des choses difficile, et c'est ce qui explique la panade totale dans laquelle on est pour le réchauffement climatique. Parce que des gens qui ont une vision globale de quantité de systèmes interconnectés qui réagissent et qui rétro-réagissent les uns sur les autres, il y en a hélas très peu.
Même ce que tu dis, ça m'inspire qu'en fait, ces problèmes d'éthique, il faudrait peut-être les confier. Le monde est tellement complexe, il faudrait peut-être les confier à des intelligences artificielles, non? Mais ça pose peut-être des problèmes d'éthique, ça.
On les a pas encore faites.
Là, justement, il y a des gens qui travaillent sur l'éthique dans les intelligences artificielles, en particulier, bien sûr, parce que c'est un problème. Oui. Et qu'une intelligence artificielle mal programmée, c'est jamais qu'un tournevis, mais c'est un tournevis qui fonctionne mal. Donc, bien sûr. Mais on ne maîtrise pas tout, non, ça, on n'a pas cette préservation-là. Par contre, on est dans une société et on essaie de faire en sorte d'interagir le plus intelligemment possible et le plus positivement possible avec la société. Moi, je refuse certains contrats si ça heurte mon éthique. C'est à mon niveau. Et dans le laboratoire, on a une commission pour regarder ça. Après, on ne maîtrise pas tout ce qui se fait, non.
Et puis, on a le droit, à un moment donné, de corriger les erreurs. Bon, on nous demande de terminer, oui, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui vont
se fait chasser
notre place. On va se faire. Non, mais il y a de la place pour tout. Par contre, je signale que l'anthologie donc, est disponible à la librairie, elle est disponible en commande. Elle est aussi disponible en numérique pour les gens qui sont technologiquement avancés ou les intelligences artificielles qui lisent directement sur
le site. Et puis, on est en dédicace, je crois, tous les trois maintenant.
Bon, on y va là maintenant.
Ah bon, d'accord. Ah ben, on va dédicacer alors. Voilà, très bien.
Allons-y.
Je la prends.
Ça s'en va, non ? Peu importe. Le mien, je l'ai plié après.